I got glue and chore pour I to the pipe.
L'écho du parquet, l'émission qui met le feu au plancher.
À la vacante, j'ai dit de ne pas m'engarer, pas m'engarer.
Votre rendez-vous radiophonique des musiques et danses traditionnelles.
La petite son chapeau, une belle plume de haut. Pas m'engarer, pas m'engarer.
Mais si l'amour prend la racine, dans mon jardin j'en planterai. Dans mon jardin j'en planterai, mais aux quatre coins. J'en ferai pas, aurons-nous deux qui en auront besoin.
Elle est pas mal.
Bonjour.
Et bonjour, c'est l'écho du parquet que vous retrouvez comme à votre habitude sur Radio Méga, Radio Saint-Ferréol, fréquence 7 en Dromardèche, donc des radios locales, ou alors, si vous n'êtes pas en Dromardèche, sur internet, sur l'audioblog Arte Radio, l'écho du parquet.
Et donc l'émission d'aujourd'hui, c'est un peu un complément à l'émission de la dernière fois qui avait fait une spéciale diato sur l'histoire du diato en quelque sorte. Et aujourd'hui, on va vous présenter des histoires de diatonistes.
Voilà, et donc pour commencer, on va découvrir le parcours d'Andy Cutting, qu'on le connaît, spoiler alerte, notamment pour son implication dans le groupe Blozabella. Et puis ensuite, on découvrira Anne Nipold, autre style, mais qui, voilà, on les a regroupés dans une même émission parce qu'il se trouve qu'ils ont un projet en commun. Voilà, et je dévoile pas tout, on vous laisse découvrir la suite.
C'est parti!
My mother and father were involved in a bizarre English custom.
Mon père et ma mère participaient à une coutume anglaise étrange qui s'appelle le Morris dancing. Et à l'âge de, je crois, 4 ans, et donc avec mon frère plus âgé, ils avaient l'habitude de nous prendre avec eux au Morris dancing. On y allait tout le temps, et avec la danse, ben, il y avait la musique. Ils allaient au festival aussi, et donc j'ai vu beaucoup de chanteurs et de musiciens. J'ai grandi en les voyant jouer la plupart du temps, presque tous les week-ends. Ça a été comme ça toute ma vie jusqu'à ce que je commence à jouer moi-même.
How did I meet the instrument? I used to have piano lessons when I was like 8 years old.
Comment j'ai commencé la musique? Eh ben, je prenais des cours de piano quand j'avais quelque chose comme 8 ans et j'étais vraiment mauvais. Les seuls diplômes que j'ai en musique, c'est piano niveau 1 et 2 et théorie musicale niveau 2. Et à 10 ans, j'ai arrêté tout ça. Ensuite, j'ai été batteur pendant 6 ou 7 ans. Et je jouais pour des spectacles, des pièces de théâtre, des concerts, de groupes de jazz ou de rock. Mais un jour, j'ai réalisé que je n'aurais jamais quelque chose de spécial en tant que batteur. J'étais juste un batteur.
I realized I would never have something that was special.
Je n'avais vraiment rien de spécial et à moins que je travaille pendant des heures et des heures, je n'arriverai jamais à percer. Et donc un jour, j'étais dans un pub, j'étais avec des amis, j'avais presque 16 ans, et le gars qui tenait le bar avait emprunté un mélodéon, c'est-à-dire un accordéon diatonique, et il était plutôt abîmé. Et il a dit qu'il ne s'en sortait pas, qu'il n'arrivait pas à jouer de cet instrument, pas du tout. Et il l'a donné à un de mes amis en lui disant « j'aurais besoin que ce soit réparé pour qu'on puisse en faire quelque chose ». Et là, j'ai juste dit « moi, je pourrais le réparer ». Je n'y connaissais absolument rien, mais je suis plutôt doué en menuiserie et je comprends assez bien comment fonctionnent les objets, les machines. C'est une activité intellectuelle que j'aime beaucoup. Et il m'a répondu « bien sûr, prends-le ». Et donc je l'ai ramené chez moi à la maison. Il y avait des trous dedans et les notes sonnaient vraiment très mal. Je l'ai démonté, j'ai réparé le soufflet et il fonctionnait à nouveau. Et deux semaines plus tard, je l'ai ramené au gars et réparé. Et il m'a dit « alors comment ça s'est passé ?» Je lui ai dit « ça marche, il n'y a plus de trous d'air, les notes sont meilleures. » Et là il m'a arrêté, il m'a dit « non, comment ça s'est passé pour toi pour le jouer ?» Je lui ai dit que ça faisait que deux jours qu'il était réparé, et puis je me suis mis à lui jouer deux chansons. Et là, il m'a dit « c'est trop injuste ». Moi, ça m'a pris 6 mois pour arriver à jouer à peu près correctement ma première chanson, et toi, tu me dis que tu ne joues que depuis deux jours ? Et maintenant, des années plus tard, je me rends compte que je n'essayais pas d'apprendre les mélodies, les chansons, parce que je les ai en fait entendues tout le temps depuis l'âge de 4 ans. Les chansons étaient déjà là, en fait. Du coup, c'était juste mécanique et c'était pas si difficile, en fait. Et ensuite, j'ai eu un honneur à deux rangs, un honneur basique. C'est ce que tout le monde avait alors, au bon vieux temps. Et c'était vraiment chouette à jouer et là, je suis devenu complètement obsédé par le fait d'apprendre à jouer de cet instrument.
I wasn't trying to learn the tunes, the melodies, because I heard them all the time. Mm-hmm. From the age of 4, the tunes were there. Mm-hmm. It was just mechanical. It's not so difficult. Mm-hmm. And then I got a honer, a two-row, mm-hmm. 8-bass honer, like everyone used to have in the good old days. And to play these things, it was like cool. And then I obsessed about trying to learn to play the instrument. Keeping all his tools and traps hidden up his sleeves. I was 16 years old. I was obsessed with trying to be better than everybody that I used to hear playing in the pub every week. They played the same tunes every week, always the same. So I have to be better. So I studied there were no teachers.
J'avais 16 ans et j'étais obsédé par l'idée de jouer mieux que tous les gens que je pouvais entendre jouer au pub. Ils jouaient les mêmes chansons chaque semaine, toujours les mêmes chansons. Je voulais être meilleur que ça, alors j'ai bossé. Il n'y avait pas de prof à l'époque en Angleterre pour cet instrument. Il n'y avait aucun endroit pour aller et apprendre, je n'en connaissais aucun. Alors je me suis simplement procuré un disque de John Kirkpatrick, un musicien anglais fantastique, et j'ai simplement essayé de le copier. Et j'ai dû m'entraîner quelque chose comme 8 à 9 heures par jour pendant 9 mois. Tous les jours comme ça, j'étais vraiment complètement obsédé par ça. Simplement pour devenir meilleur très vite. Et au cours de ce voyage, un copain m'a donné une cassette avec deux accordéonistes européens. Le premier était l'accordéoniste italien Riccardo Tesi et l'autre, c'était Marc Perron. Et pour moi, c'était vraiment extraordinaire. Je savais bien que l'instrument était le même si c'était dans une tonalité différente. Mais je ne comprenais vraiment pas comment cette musique était jouée. Et donc j'ai vraiment étudié ça. Et ensuite, pour répondre à votre question, il y avait ce groupe anglais sympa qui s'appelle Blozabella. Je connaissais ce groupe, j'en ai rencontré certains d'entre eux et j'ai joué un peu avec certains des membres de Blozabella. Et à cette époque, à la fois le violoniste du groupe Dave Shepherd et celui qui faisait de la boxe, de l'accordéon, Dave Roberts, tous les deux quittaient le groupe à cette époque. Et les autres ont vu en moi quelqu'un qui pouvait être utile dans le groupe. À cette époque, j'avais un boulot. J'étais ingénieur de marine pour fabriquer des bateaux. Et là, j'ai dû décider. J'avais jamais prévu de devenir musicien professionnel. Moi, je voulais être ingénieur dans la marine. Mais ça, c'était vraiment une sacrée opportunité. On me dit « Tu veux jouer dans Blozabella ?» Bon, et si je fais ça et que finalement je n'aime pas, je pourrais toujours revenir à mon métier de départ. Mais si je ne le fais pas, en fait, je ne saurai jamais. Et il y aurait comme un point d'interrogation dans tout le reste de ma vie. Et donc je me suis dit, ok, j'essaye ça. Et c'était il y a 36 ou 37 ans. Mais en fait, ils ne m'ont jamais demandé si je voulais faire partie de Blozabella. Ils m'ont dit dans une lettre, c'était avant l'époque des emails, ils m'ont dit que j'étais dans le groupe, voilà. Et ben on joue toujours ensemble et c'est vraiment fantastique.
But it's important. They never asked me if I wanted to be in Blozabella. They told me in a letter before email that I was now in the band. So and we still play. So it's amazing. A great pleasure. It's easy to start with Blozabella. For me, I have been.
En ce qui concerne mes différents groupes, c'est évident de commencer par Blozabella. J'en fais partie depuis 37 ans et c'est devenu une vraie famille. Et on se connaît si bien aujourd'hui. On se connaît très bien sur le plan musical, mais aussi sur le plan personnel. C'est unique. Blozabella, c'est vraiment bizarre. Je me dis. J'y suis, je fais partie de ce truc. Et j'en fais partie depuis longtemps. C'est une situation où tu viens pour jouer dans des bals et tu montes sur scène et en fait, tout le monde connaît très bien ta musique.
Get on stage and everyone's like, they know your music really well. Topette is really cool just to play with.
Alors Topette. Topette, c'est très sympa de jouer avec Barne qui est aussi dans Blozabella, il joue de la basse. C'est lui qui a commencé Topette. C'est vraiment son groupe. Et c'est aussi toujours un grand plaisir de jouer avec Julien Cartonnet et Tania Buis est vraiment fantastique. Et il y a aussi un ami anglais que je ne connaissais pas, mais que maintenant je connais depuis longtemps, James Delar. Il joue le violon dans le groupe et c'est vraiment très sympa de jouer avec lui. Il est vraiment très anglais. Quand on a commencé Topette, il ne savait pas trop vraiment quoi faire pour jouer le style bal folk. Topette, ça peut être vraiment un peu dingue. C'est un groupe un peu dingue. des gens un peu dingos. Si vous connaissez Julien Cartonnet, il est comme ça.
Julien Cartonnet, he's very silly. I'm from England, and there's a style of playing the accordion in England I don't really like very much.
Bon, ok, moi je viens d'Angleterre. Il y a un style de jeu anglais de l'accordéon dont moi je ne suis pas très fan. Parce que c'est très, nous on dit lumpy, empoté. C'est très lourd. Pour moi, le bal folk et plus particulièrement le répertoire français, en fait, ça n'atterrit pas vraiment, ça ne se pose pas sur le sol, sauf si on le veut vraiment. Ça ne se met jamais vraiment assis sur le sol ou un peu en dessous du sol, c'est toujours un petit peu en l'air. Il faut un peu que toujours ça flotte en quelque sorte. Alors que le style anglais, il est vraiment très ancré dans le sol ou même en profondeur. Pour moi, ça m'ennuie en fait. Mon style à moi, ça a commencé en Angleterre, je viens de là, mais en fait, j'étais très influencé par exemple l'album de Frédéric Paris, Rue de l'Oiseau. Et il y joue de l'accordéon diatonique et moi je me dis, waouh, ça c'est si léger. Cette manière dont il joue, donc ça m'a influencé. J'ai été influencé par lui, par Marc Perron, par Ricardo Tesi. Et j'ai fini par comprendre qu'il y a un certain son que j'aime bien à propos de ce qui se fait avec la main gauche, les basses. Il y a beaucoup de gens qui jouent pom, 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 pom. Et moi, j'ai pas besoin de ça. Je trouve que le rythme est dans la mélodie. Et j'utilise plus la basse de l'accordéon comme une sorte d'harmonium, où pour les accords, il y a par exemple un musicien finlandais absolument génial qui s'appelle Timo Alakotila. Il joue de l'harmonium, il joue aussi du piano et il compose. Pour moi, ce qu'il fait, c'est vraiment très très beau, c'est rythmique. Mais en fait, ça ne fait pas le rythme, ça accompagne celui de la mélodie. Et donc, du point de vue du style, je suppose que je suis plus un joueur d'harmonium qu'un vraiment un joueur d'accordéon. Voilà, je crois que c'est comme ça que je peux décrire mon style particulier.
And so for me, I suppose in a style way, that's I'm more a harmonium player than a accordion player. So that's my, I suppose, the easiest way to try and describe my style. Thank you. So, Topet, what else do I do? I do lots Leverett. Of things. Leverett, I love. J'adore Leverett. To play with.
Donc, Topet, qu'est-ce que je fais d'autre? Je fais beaucoup de choses. Ah, Leverett, j'adore. Je joue avec le violoniste Sam Sweeney et avec Ron Harbor au concertina. C'est vraiment magique. Je ne sais pas si vous savez ça, la manière dont on fonctionne. On joue ou bien des compositions nouvelles qui viennent de nous, ou bien des morceaux issus de collectages, de collections anciennes. Des morceaux de peut-être 100, 200, 300 ans qui n'avaient pas été joués depuis très longtemps. Alors on apprend la mélodie, et puis on a une répète, juste pour jouer les mélodies. Mais on n'a en fait aucun arrangement, d'aucune sorte, pas du tout. On connaît la chanson, la mélodie, ou alors si c'est plusieurs mélodies, celle qui vient en premier, et la tonalité des morceaux. Mais on ne sait pas qui commence, qui joue l'harmonisation, qui joue un accompagnement, etc. Ni même quand on va changer de morceau, ça on ne sait pas. Donc oui, c'est une forme d'improvisation, mais pas du tout le type d'improvisation du jazz. Ce sont principalement donc des morceaux traditionnels, mais on n'a aucun arrangement d'aucune sorte. Dans ces conditions, c'est assez excitant de monter sur scène, et on a quelque chose comme une centaine de morceaux que l'on pourrait jouer. C'est moi qui fais la setlist, le choix des morceaux, et chaque concert est quelque chose de différent. Ça change tout le temps. J'ai fonctionné comme ça avec un gars qui s'appelle Chris Wood. On jouait ensemble de la même manière. On a fait ensemble le son continu il y a quelques années. C'est vraiment très chouette.
In fact, we played at le son continu a few years ago, and we worked in the same way. So that's cool. So yeah, I also have a duo with a German woman called Gudrun Walter.
J'ai aussi un duo avec une musicienne allemande qui s'appelle Guntrud Walter. Elle joue du violon et elle chante. Je connais Gudrun depuis 35 ans ou quelque chose comme ça. Et c'est aussi elle qui s'occupe des intérêts de Leverett en Allemagne. On a d'abord beaucoup joué ensemble dans des sessions des Boeufs, dans les festivals, vraiment depuis des années. Et puis un jour, alors qu'on ne s'était pas vu depuis une dizaine d'années, elle me dit « Tu voudrais pas qu'on fasse un truc ensemble ?» Et ma première réponse a d'abord été de dire non, parce que je suis beaucoup trop occupé. Et j'avais déjà commencé le duo avec Anne, et je me disais « Quoi, encore un autre duo ?» Mais elle a eu une subvention du gouvernement allemand pour faire un disque avec quelqu'un qui ne serait pas allemand. Et donc elle me dit « Tu veux faire un disque ?» Bon, bah allons-y pour le disque. Mais après le disque, on se dit « Bon, alors ça va être quoi les dates pour la tournée après le disque ?» Et en fait, c'est extrêmement différent du duo avec Anne. C'est beaucoup plus traditionnel, c'est beaucoup plus ancré dans le monde dont moi je viens, plutôt que l'improvisation, le monde du jazz.
So I have the duo with Anne. She asked me a long time ago, or some years ago, whether.
Donc j'ai aussi le duo avec Anne. Elle m'a demandé il y a quelques années si je voulais bien jouer en duo avec elle. Et j'étais, t'es trop forte. Tu es si forte, c'est impressionnant, ça fait peur. Et du coup, j'y ai réfléchi longtemps et je me suis dit que si on jouait tous les deux de la même manière, ça serait pas très intéressant. Mais comme on a des styles vraiment différents, du coup, c'est plus intéressant et ça prend de mieux en mieux. C'est vraiment fantastique. Elle est, comment dire, les génies, ça n'existe pas vraiment, mais elle est quand même un génie. Elle est vraiment incroyable. C'est vraiment un grand plaisir. Vous savez, c'est assez effrayant de jouer avec quelqu'un qui est aussi différent et si bon. Ça fait wow. Mais pour moi, c'est une façon d'avancer, de faire des choses meilleures.
Actually, yeah, this is getting better. It's growing and making a better thing. Thank you.
Donc, je m'appelle Anne Nippold, je suis basée à Bruxelles, en Belgique, à Saint-Gilles, plus exactement, Bruxelles-Sud. Et je pense que j'ai toujours baigné dans la musique, par le fait que mon père était amateur de musique traditionnelle, instrument à bourdon. Donc, enfant, j'étais trimballée dans des week-ends de bal folk, de stage. Alors, pas du tout en continu comme d'autres musiciens qui, enfant, étaient trimballés, mais voilà, c'est quand même, je pense, une ambiance qui m'a imprégnée. J'ai des souvenirs de... Oui, ce souvenir magique qu'on s'ennuie la journée et puis c'est le soir et les adultes prennent un verre, ils boivent des boissons rigolotes, ils deviennent tous un peu rigolos, ils ont tous des boîtes et des sacs à dos et ils sortent des instruments, ils se mettent à jouer ensemble. Et les quelques enfants qui sont là, parce que souvent il n'y en avait pas beaucoup, on jouait sous les tables à faire des cabanes, mais pendant que ça dansait, de temps en temps on venait et on pouvait danser un peu avec et puis on se recachait. Enfin, c'est vraiment ce milieu, oui voilà, à cheval quoi, entre le jeu d'enfant qui est juste à côté, pas loin, mais avec cette musique qui tourne et... Oui, j'ai ce souvenir d'instruments, de ouais, les choses, des gens, ils font quelque chose ensemble. Parce que moi, enfant, j'ai eu des cours de piano classique. Bah, je pense que j'avais envie, je sais pas en fait, on m'a mis au piano, mais pas en mode forcé, mais voilà. Et je faisais ça parce que je faisais ça, je pense, comme beaucoup d'enfants. J'ai pas un souvenir que c'était horrible ou un souvenir que c'était génial, mais voilà. Et à un moment donné, quand même, j'en avais marre et je voulais autre chose. Et ça, c'est assez étrange, j'ai le souvenir de dire « oui, je veux faire du jazz ». Et je ne savais pas ce que ça voulait dire, jazz, c'était juste, je ne sais même pas pourquoi je disais ça. Et, mais la professeure n'était pas du tout de formation, donc je pense qu'elle m'a donné un ragtime, mais voilà, ça s'est un peu arrêté là. Puis mes parents ont essayé de trouver un autre prof pour plus d'ouverture, mais je pense que ça ne s'est juste pas mis. Et en parallèle, ben voilà, avec cette rencontre du milieu trad, je voyais des accordéons diatoniques et j'avais vu un concert qui m'avait vraiment fort marqué. Et je trouvais ça chouette, mais voilà, juste chouette. Et puis voilà, on est à un moment où j'ai 12-13 ans et je faisais des babysitting pour les voisins. Et chez les voisins, il y avait une boîte avec un accordéon diatonique dedans. Donc un vieux truc, à mon avis, ça devait marcher une note sur deux, mais je m'amusais avec, je jouais un peu. Et finalement, voilà, un pote de mon père qui était accordeur de piano et jouait un peu d'accordéon diatonique suédois à ses heures perdues m'a donné deux cours. Ouais, j'ai trouvé ça bof. Et puis finalement, le moment clé, c'était un stage de musique trad où mon père m'emmenait. Et voilà, la vraie histoire, en fait, il faut quand même la raconter, c'est que je voulais aller, il y avait une piscine couverte et j'étais dingue de piscine et de ces soirées dont je parlais juste avant. Et à un moment, il m'a dit, écoute, t'as 12 ans, cocotte, tu peux venir, la piscine, c'est cool, mais tu fais aussi un instrument la journée, quoi. Et je pouvais choisir entre via la roue, parce qu'on pouvait louer ça pour les débutants, ou accordéon diatonique. Et mon père faisait la via la roue, donc j'ai dit, ok, d'accord, l'accordéon, alors. Et donc voilà, ces stages, ça se passe comme ça. Les gens, ils jouent la journée. Toi, t'as un instrument de location, mais que tu dois rendre le soir. Et en fait, je devais jouer, je me souviendrai toujours, je devais apprendre un morceau breton de débutant. Et je trouvais ça horrible. Et l'autre groupe, les moyens, ils jouaient une valse en avant blonde, pour pas la citer, c'est un morceau très connu. Et je trouvais que c'était l'air le plus beau du monde. Enfin, je me souviens être touchée. Vraiment, et donc le soir, j'étais une gamine plutôt timide et tout ça, j'étais volée, enfin pour moi c'était vraiment du vol, la clé, parce qu'on cache toujours la clé, pour hein, les instruments sont là, mais tout le monde sait que la clé, si tu veux aller chercher. Donc j'étais prendre cette clé, et avec précaution, j'ai pris un accordéon dans une boîte, parce que je savais que c'était celui du monsieur qui avait l'air gentil, et donc j'ai pris ça, et j'ai pris la partition avec les doigtés que eux ils avaient dans l'avant-blonde, et j'ai essayé de déchiffrer tout seul en avant-blonde, et je pense que j'ai passé ma soirée toute seule dans cette classe, et je trouvais ça génial. Et voilà, c'est un peu comme ça que ça a commencé. Et en fin de stage, j'ai sorti cette valse et je me suis fait engueuler. Parce que c'est quand même aussi ça, je pense, un peu le moment de clé. Par ce prof qui disait, non, tu dois d'abord faire le morceau breton et t'as pas à faire ça. Et voilà, je me dis aujourd'hui, si j'avais un gamin de 12 ans qui arrive à faire un truc tout seul parce qu'il trouve ça mal... Bah, bon, bref, ça n'aurait pas été ma façon d'agir. Mais en tout cas, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé et que j'ai atterri dedans.
Donc, tu viens au Diatto comme tu l'as raconté, et après, tu as fait des études de musique, je crois, d'après ce que j'avais vu. Tu as étudié la musique à l'université, je ne sais pas comment est le système belge, et tu as gardé le Diatto dans ce cadre-là.
Oui, d'une certaine façon. J'ai donc commencé l'accordéon, j'ai monté mes groupes, j'ai fait quelques stages, mais je pense que autodidacte, je trouve que c'est un mot très très dangereux et j'y crois pas trop, donc moi je l'utilise pas pour moi, mais en même temps, vu comme il est utilisé souvent, alors je suis aussi autodidacte d'une certaine façon, mais voilà, j'ai cherché vite mon chemin, j'ai très très vite monté mon propre projet, j'ai eu un professeur en Belgique, Didier Laloy, pendant quelques mois, qui après m'a dit, j'arrête de te donner cours parce que je peux plus rien t'apprendre, c'était le jour le plus horrible de ma vie, mais il m'a dit, tu peux me remplacer, parce que lui, ça commençait à tourner, il y avait du... donc je me suis retrouvée à 14 ans, à remplacer avec un groupe belge sur la scène des Francopholies de La Rochelle, en me disant, c'est quoi ce truc, je veux rentrer à ma maison, mais donc j'ai fait vite beaucoup de choses en diatto, c'était vraiment très très présent dans ma vie, et puis le moment, du choix de vie, des études, moi je doutais, mais j'étais plutôt partie pour une direction médecine ou science, quelque chose comme ça. Je voulais étudier médecine et jusqu'au bout, j'étais inscrite un peu dans les deux directions et finalement, j'ai quand même atterri au Conservatoire Royal de Bruxelles. Chez eux, il y avait une section jazz et qu'on disait très, très ouverte. Là, en section jazz, on m'a dit « Ouais, c'est quoi ton truc ?» Enfin, voilà, c'est la vérité. Le directeur, à l'époque, on m'avait dit « Ouais, mais c'est quoi ton truc ? Là, c'est pas un instrument. » Il dit « Où t'en es rouge ?» Ça, c'est un accessoire pour les clowns. Je cite. Et donc, c'était quand même grave. Mais voilà, donc on m'a dit « Écoute, si tu veux étudier ici, t'as quand même un niveau, tu fais des choses, mais alors c'est que en écriture que ça marche. » Donc, ils ont une direction... comme je pense au Conservatoire National Supérieur, enfin, c'est comparable à ça en France, en écriture. Donc ce que j'ai fait, ça s'appelle composition et arrangement jazz. Donc j'avais un tout petit peu de cours d'instruments, mais les problèmes ont tout de suite commencé, parce que qui allait me donner cours ? Enfin, il n'y avait même pas d'accordéoniste chromatique, là. En tout cas, j'étais là-dedans, je me suis accrochée, c'était pas évident, enfin, tu vois, c'est... Pas beaucoup de le dire, parce que c'était dur, je trouvais pas ma place, on m'obligeait d'aller dans un ensemble dont le professeur ne me voulait pas parce que j'étais pas un instrument, et qu'en plus, oui, je n'y connaissais rien, mais moi je voulais juste apprendre, et mon professeur de composition, c'était Chris De Fort, donc quand même compositeur renommé au niveau européen, Belgique, pour le jazz, pianiste jazz aussi, qui pratique beaucoup l'improvisation libre, et donc... Oui, on se comprenait pas non plus au début, mais c'est quelqu'un qui a dit « Ok, toi, t'es là, ça va pas du tout, mais dans ce que tu fais, toi, ça et ça, c'est bien. » Maintenant, donc en gros, je revenais avec des feuilles de choses que je devais écrire et il barrait tout et il encerclait deux fois deux notes en disant « Ça, c'est bien, continue avec ça. » Et Donc voilà, c'était rude, mais je me suis accrochée. Et lui aussi, parce que je pense que c'est aussi une drôle de façon d'avancer, mais c'est... En tout cas, il a cru en moi où il y a un côté de... Oui, je pense que moi, je pratique aussi aujourd'hui avec mes élèves. C'est pas... Il n'y a pas un certain standard qu'on vise ou un certain but. C'est prendre les gens là où ils sont et avec ce qu'ils ont d'intéressant à dire et les amener plus loin, où que ce soit, mais leur donner des outils.
Comment tu as mêlé ça, cet apport jazz avec le diatto et avec ta pratique de diatto? Enfin, comment c'est venu alors que c'est un instrument a priori pas adapté?
Tout à fait. Et donc justement, c'est ces années-là où c'était très difficile, enfin pour le dire platement, le cul entre deux chaises, parce que ça donnait en effet le fait que je jouais des balles avec des copains. Enfin voilà, le week-end, je jouais avec mon groupe partout et tout ça. Mais dès qu'on atterrissait dans le milieu putrade, on me disait « Ouais, non, arrête, il y a trop de syncope et toi, tu fais du jazz ». Et ça me paraissait quand même bizarre, d'autant plus que côté jazz, on me disait « Ouais, t'es vraiment une folky, franchement, ça va pas du tout ». Donc c'était pas évident. Après, voilà, ceux qui ne te tuent pas... Enfin, cette phrase a été mal utilisée, mais franchement, c'est un peu dommage, mais c'est vraiment ça aussi qui m'a poussée, je pense, parce que c'était tellement dur. Donc au bout d'un moment, j'ai trouvé ma voix là-dedans et j'ai petit à petit, voilà, j'ai essayé, moi, transposer des éléments de voilà, une bière à ce côté-là, ou cette note-là, ou ces tensions-là, comment est-ce que je peux les trouver sur l'accordéon ? Et alors, je pense, le grand moment clé ou le début de la réconciliation, ça sonne peut-être débile, mais voilà, c'est l'opportunité que j'ai eue de faire une masterclass avec Richard Gagnano. Ouais. Donc voilà, c'est un jour un copain qui me dit, un premier, puis un deuxième, un quatrième, un dix-septième, qui dit « Ouais, il y a une masterclass avec Gagnano, il y a une ouverture à candidature. » Donc je lis l'intitulé, et je dis bah oui, il y a bien marqué pour accordéon chromatique et bandoneon uniquement. Mm-hmm. Ok, très bien. Donc je dis bah ouais, tu dois le faire. Donc limite, ils ont fait le dossier à ma place. Enfin, on m'a vraiment poussé. Donc j'ai envoyé ça et j'étais une des 12 choisies. Et donc c'était incroyable. Et lui, c'était drôle parce que justement, j'arrivais en retard. J'avais un spectacle au Luxembourg. Donc c'était le truc déjà complètement interdit d'arriver en retard. Donc j'ai rien dit à personne, je l'ai fait quand même. L'organisation, tout le monde était fâché. Et Richard s'est levé, il a dit « Ah !» Je ne sais pas imiter l'accent du Sud. « Ah, Anne, c'est vous, la petite diatonique. » Et j'étais un peu gênée. Mais il a tout de suite vu, je pense, le potentiel du « less is more ». Voilà, on avait ses cours, il y avait un morceau, par exemple, de Scarlatti. Et donc, tout le monde va travailler 2 heures et on revient et tout le monde joue sa version de Scarlatti. Et ils faisaient tout ça comme des demi-dieux. Et moi, je revenais et je faisais ça pas mal, je pense. Mais moi, j'avais fait les 3 premières mesures. Et eux, ils avaient fait les 2 ou 3 pages. Parce qu'au diatonique, je devais chercher de comment trouver un chemin pour m'approprier ça avec les limites de l'instrument. Et voilà, Richard, ce qui est chouette, c'est qu'il il m'a fort soutenu là-dedans. Enfin, lui, voilà, en tout cas, ça lui plaisait énormément. Je pense que ça m'a un peu ouvert les yeux là-dessus, parce que c'était un moment où je me suis dit, ah, je vais faire autre chose, peut-être quand même médecine ou passer au chromatique. Ou... J'étais vraiment dans ce questionnement fort. Et voilà, c'est une période où j'avais reçu une carte blanche à un grand festival en Belgique, le Festival d'Art de Huy. Et j'avais monté 3 morceaux avec une espèce de mini big band. Et pour rire, on avait appelé ça Musette is not dead. Mm-hmm. Parce que j'avais arrangé 3 valses musette pour ce grand ensemble. Donc voilà, je pense que c'est la première fois où réellement... Enfin, je l'ai fait avant, mais la première fois vraiment pour une grande formation où j'utilisais donc mes acquis ou mes outils d'écriture pour écrire quelque chose dans lequel je joue, moi, mes choses. Et j'avais un enregistrement pourri de sortie de table de mixage. Et Richard a écouté ça, il a dit « Mais c'est ça que tu dois faire ». Et lui, le soir, il rentrait chez lui, toujours à Villecroze, et il est revenu avec des partitions de musette et de son père. Il dit « Regarde ça et ça et ça ». Donc, quel cadeau. Et donc, je suis partie là-dedans. Et je pense que c'est ça qui a vraiment défini tout ce qui a suivi après, même s'il y a plein de choses différentes ou un retour au trad. Mais c'est cette confiance, voilà, qui, comme chez tout le monde, je pense, il y a des jours, il y en a plus, il y en a moins. Mais ce truc de dire « Ok, je vais quand même pour qui je suis et j'utilise, voilà, plutôt que d'essayer de me formater dans un autre moule qui n'est pas le mien ».
Juste peut-être pour conclure, parce que tu l'as évoqué, dans une interview, tu racontes que, enfin, ou le texte que tu as écrit d'ailleurs, tu racontes que le fait de rentrer le diato dans les institutions, donc ce que tu dis là, de le rentrer au conservatoire et tout, c'est peut-être pas que une bonne chose. Est-ce que tu peux t'expliquer ce que tu veux dire par là et pourquoi ?
Oui, parce qu'en effet, c'est comme tout sujet niche ou est-ce qu'on parle d'une, de la langue bretonne ou de, je m'avance, je connais pas assez, mais tout c'est des, un dialecte, quelque chose, ou les, ou la question des genres et tout ça, je pense que j'ai un peu le même esprit pour tout. Je trouve, moi, dans ma vision de l'humanité, de l'humain et de la caractéristique de tout le monde a le droit d'exister et tout le monde a sa richesse. Et donc, je trouve que c'est une institution, c'est super. Par exemple, en Belgique, on a les académies qui sont justement pas des... C'est un peu comme le conservatoire, mais c'est moins, comme en France, moins formaté. Vraiment, tout le monde peut y aller. C'est un peu moins strict, mais quand même, c'est génial. Et c'est génial que l'accordéon diatonique et le trad ont atterri là-dedans. Super, mais du coup, c'est un cadre. C'est un cadre qui touche des subventions. Il faut des piliers pédagogiques. Il faut respecter certains plans. Et donc là, ça commence déjà. Alors, le diato, ah ben, ils doivent aussi faire théorie musicale. Alors, attends, parce que du coup, on va faire la théorie musicale générale folk. Chez nous, ça s'appelle comme ça. Donc moi, j'entends général folk. Moi, il y a déjà j'ai de la chair de poule partout. Donc c'est ça que je trouve le danger. C'est super d'y être parce que c'est une visibilité. Un môme qui veut commencer la musique, tout le monde connaît le piano ou le violon à la limite, mais déjà, voilà, les enfants qui ont la chance d'être dans ces cadres-là, mais qui connaît le diato ? Enfin, voilà, donc c'est super d'y être pour cette raison-là. Mais par contre, de devoir se mettre dans le moule et se faire formater, je trouve que c'est le danger de perdre sa spécificité ou quelque chose, donc la visibilité c'est bien, mais voilà, donc j'essaye de, pour en revenir au début, j'essaye de m'accrocher à ça, de dire ok, c'est d'amener la personne qui veut étudier cet instrument ou l'instrument lui-même plus loin, à part, parce que pour moi les choses évoluent et il n'y a pas de, hein, ça c'est l'accordéon diatonique aujourd'hui en 2024, voilà, c'est ça et ça et ça, mais ça va évoluer j'espère, et grâce à plein de choses et plein de gens ensemble, voilà.